le magazine des Nations Unies.
...319 policiers et officiers de UNPOL, la police de la MONUSCO, gratifiés des médailles de l'ONU. L'événement a été présidé par Leyla Zerougui elle-même. La chef de la mission était entourée de ses deux adjoints. Les détails dans ce magazine. Attaquer les écoles et les universités en temps de conflit est un crime de guerre selon les statuts de Rome. Un atelier visant à intégrer les lignes directrices de la déclaration sur la sécurité dans des écoles s'est tenu de mercredi à jeudi dernier à Kinshasa. Mag Yuen revient sur la quintessence de ses travaux dans cette édition. Un peu plus de 180 000 réfugiés centrafricains recensés dans le nord et sud Bangui et les Bazuélé, selon la sous-délégation du UACR Badelité. Depuis le 16 avril dernier, une opération conjointe d'enregistrement biométrique ACR-CNR est en cours dans le Bazuélé pour les réfugiés vivant en dehors des camps. Dans cette édition, une invitée pour en parler, Ghislaine Nentobo, associée à l'information publique à la sous-délégation du UACR Badelité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans MagUN. L'actualité de la MONUSCO cette semaine a été marquée par l'honneur fait à 319 staff de la police des Nations Unies, UNPOL, qui ont reçu des médailles de l'ONU pour les services rendus au sein de la mission onusienne en RDC. Honoré Missenga Kalala était présent sur les sites d'Inkal de la MONUSCO situé à Kingabwa où cette cérémonie a été organisée. Suivez plutôt son reportage.
Jeudi 19 avril, sur le site Inkal, tout le leadership de la mission a pris place à la tribune. Leyla Zerougui, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, est entourée de ses deux adjoints, David Gressley et Kim Boldik, ainsi que du commandant de la police de la MONUSCO, le général Awale Abdounassir. Parmi les invités de marque, l'ambassadeur de l'Égypte et quelques officiers de la PNC, la police nationale congolaise. Tous sont venus assister à la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à 379 policiers de l'ONU pour les services rendus au sein de la mission onusienne en RDC. Le général Awale Abdounassir.
Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, qui couronne la remise des médailles des Nations Unies à 379 policiers des Nations Unies, ici représentée par l'unité égyptienne, l'unité Bangladesh, mais également des officiers de la police des Nations Unies, représentant 22 pays contributeurs.
Une mention spéciale au contingent Bangladesh et égyptien.
L'unité du Bangladesh ici présente à Kinshasa est caractérisée parce qu'elle est constituée essentiellement de personnel féminin. C'est une occasion pour moi de souligner le travail excellent fait par cette unité, non seulement dans le cadre de ses activités ordinaires, mais également dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, particulièrement contre les femmes et les jeunes filles. Je voudrais aussi souligner le niveau d'engagement très apprécié de l'unité égyptienne et puis ici présente pour leur engagement constant dans la gestion des événements des 11 derniers mois ici à Kinshasa.
La représentante spéciale du secrétaire général en RDC prend à son tour la parole et donne le sens de la cérémonie.
Cette importante cérémonie traduit l'estime de la communauté internationale pour tous les casques bleus qui s'engagent pour la paix dans le monde. Parce qu'on s'engage et on met le casque bleu parce qu'on porte la paix, parce qu'on arrive dans des zones troublées pour essayer de ramener la paix.
Parmi les policiers médaillés, il y en a qui sont fait mandat et d'autres qui vont encore poursuivre le leur. Un mot de Leyla Zerougui aux uns et aux autres.
À toutes celles et ceux qui achèvent leur mission ici, je leur souhaite une bonne continuation dans leurs pays respectifs et je voudrais profiter de l'occasion pour inviter celles et ceux qui continuent dans la mission à donner le meilleur d'eux-mêmes dans la poursuite de leur mission, notamment dans la protection des civils et dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, l'organisation des élections dans ce pays. Je crois que nous avons un rôle important à jouer et j'aimerais que chacun de nous, un jour, racontera à ses enfants ou à ses petits-enfants combien lui-même il a mis une petite pierre dans la construction de la paix en Afrique et en RDC.
4 hymnes ont été exécutés pour démarrer cette cérémonie. L'hymne de l'ONU, suivi tour à tour des hymnes nationaux de la RDC, du Bangladesh et de l'Égypte.
Les travaux de l'atelier sur les recommandations de la table ronde portant sur les attaques des écoles se sont achevés jeudi dans l'après-midi à Kinshasa. Organisé par le groupe de travail technique conjoint en synergie avec les partenaires du secteur éducatif et l'ONG Save the Children, cet atelier a couché des actions concrètes à mener dans le cadre de la mise en œuvre des 6 lignes directrices de la déclaration d'Oslo. Jean-Pierre Elalie Coco pour le reportage.
L'un des objectifs de cet atelier était d'identifier et de planifier des nouvelles actions à mener pour renforcer la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles en période de conflit armé. Doudou Kajangou, responsable des plaidoyers à l'ONG Save the Children.
Nous allons intégrer les lignes directrices dans les manuels militaires, dans les manuels de la police nationale congolaise. Il y a le manuel militaire Bukuya Askari qui a déjà intégré les lignes directrices qui sont l'émanation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Il faut les décret du Premier ministre justement pour que cela puisse prendre effet.
Les participants ont recommandé également l'intégration des lignes directrices dans le programme scolaire, notamment dans les branches d'éducation à la vie ou de l'éducation civique. Certains participants n'ont pas caché leur satisfaction.
C'est une bonne initiative de songer aux établissements qui sont mis en place pour l'instruction de nos enfants.
Le révérend père Paul Martin Lukusa, participant, soutient que ces recommandations seront suivis d'effets sur le terrain.
Il y a des groupes qu'on a ciblés pour qu'ils puissent commencer à faire le suivi. Il y a par exemple pour l'éducation, c'est l'EPSP et le ministère de la Défense.
Notons que les 6 lignes directrices ressortent de la déclaration d'Oslo de 2016. Cette déclaration recommande aux 46 États adhérents, dont la RDC, l'interdiction des attaques des écoles lors de tout conflit armé.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions, l'atelier sur les recommandations de la table ronde portant sur les attaques des écoles et universités s'est clôturé jeudi dernier à Kinshasa. Cet atelier a couché des actions concrètes à mener dans le cadre de la mise en œuvre des 6 lignes directrices de la déclaration d'Oslo. Doudou Kajangou, responsable de plaidoyer à l'ONG Save the Children, sur les recommandations issues de cette rencontre. Il s'entretient ici avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Doudou Kajangou, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'assister à cet atelier sur la sécurité dans les écoles. La problématique des attaques et de ces installations scolaires en temps de conflits armés a été évoquée. Selon vous, cette rencontre a répondu aux attentes de la population congolaise ou même des participants?
Oui, les résolutions, je vais dire, ont été atteintes à l'issue de cet atelier de 2 jours que nous avons organisé. Nous sommes venus en fait ici pour évaluer d'abord les actions ou les recommandations que nous avions formulées en septembre 2016 lors de la table ronde qui a été organisée en synergie avec le cluster éducation, avec le GTTC, le groupe de travail technique conjoint, mais aussi avec Save the Children. Alors, à l'issue donc de cet atelier de 2 jours, nous sommes satisfaits puisque nous avions évalué certains indicateurs de succès qui ont été déjà réalisés, on peut dire comme ça, mais aussi nous avions formulé de nouvelles actions de plaidoyer justement pour renforcer la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles.
Quelles sont ces actions?
Nous nous sommes focalisés sur la ligne directrice 600, que les lignes directrices soient intégrées dans les manuels militaires. Et à l'issue donc de cet atelier de 2 jours, nous avons arrivé justement à la résolution que nous allons intégrer les lignes directrices dans les manuels militaires, dans les manuels de la police nationale congolaise, mais également dans d'autres manuels militaires ou de la police qui n'ont jamais intégré ces lignes directrices. Il faut noter qu'il y a le manuel militaire Bukuya Askari qui a déjà intégré les lignes directrices qui sont l'émanation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Donc nous sommes dans ce processus-là.
Il faut les décrets du Premier ministre.
Il faut les décrets du Premier ministre justement pour que cela puisse prendre effet. Nous avons également, à l'issue de cet atelier, retenu que les lignes directrices seront également intégrées dans les manuels scolaires. Mais également, nous allons activer, en tout cas, pour que certaines lois, notamment le code pénal, à son article 223, soient modifiées et qu'on intègre justement ces lignes directrices qui sont l'émanation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles.
On a suivi les statistiques sur les attaques des écoles. Les Kasaï vient en tête avec 333 attaques. Alors, on reproche à votre ONG d'avoir accès ces interventions ailleurs que dans les Kasaï, qui est vraiment l'épicentre d'attaques des écoles. Que répondez-vous à ce sujet?
Il faut dire que notre projet d'abord,
Cool as Zone of Peace, école comme zone de paix. C'est un projet qui est mis en œuvre dans le Nord Kivu et que nous sommes dans un processus d'élargissement.
Ça, c'était avant la crise kasaïenne.
Justement, il faut préciser que c'était avant la crise kasaïenne. Nous sommes maintenant en train de réfléchir sur le Kasaï, puisque la zone a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup d'attaques au niveau des écoles. Vous l'avez relevé, il y a eu plus de 300 cas d'attaques au niveau des écoles et le projet est en train de travailler sur un proposal qui va donc permettre à ce que nous puissions également avoir un œil sur ces écoles-là dans les Kasaï.
On vient d'avoir des actions qui seront menées concrètement en vue de la matérialisation de tout ce qui a été recommandé au cours de cette rencontre. Quelle est l'implication de votre ONG dans la mise en œuvre de toutes ces actions?
Nous avons pensé que c'était nécessaire de réunir tous les acteurs impliqués dans cette activité. C'est pour cela que nous avions donc associé le cluster éducation, nous avions associé le groupe de travail technique conjoint pour réfléchir sur la manière dont nous pouvons renforcer la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et cela nous a donc permis aujourd'hui de dégager des indicateurs, des mesures de succès. Nous avions également établi de nouvelles directives et des mécanismes de suivi pour améliorer cette mise en œuvre. Et puis aussi, il faut dire qu'à l'issue de cette activité, nous sommes dit, voilà, les lignes directrices qui sont l'émanation donc de la déclaration sur la sécurité dans les écoles seront diffusées davantage ou intégrées dans les manuels militaires qui existent, spécialement dans les manuels de la police nationale congolaise. Nous nous sommes dit qu'il y a un certain nombre de documents scolaires. On va également intégrer ces lignes directrices dans les manuels scolaires. Nous allons également travailler avec l'Assemblée nationale pour voir comment nous pouvons intégrer ou modifier certaines lois, notamment le code pénal en son article 223, pour voir dans quelle mesure nous pouvons intégrer les lignes directrices pour la protection des écoles durant les conflits armés.
Pour terminer, M. Kajangou, un mot sur la déclaration d'Oslo et les lignes directrices qui y émanent.
Alors, la déclaration sur la sécurité dans les écoles, c'est un engagement politique que la RDC a pris depuis le 28 juillet 2016. Et depuis cet annoncement, nous avions réfléchi qu'il fallait qu'on mette en œuvre cette déclaration par l'intégration des lignes directrices dans la vie militaire ou dans la communauté. Et donc, la déclaration est là, existe, mais elle a aussi ses lignes directrices.
Combien il y en a?
Il y a 6 lignes directrices. Ces lignes directrices exhortent en fait les parties en conflit armé à ne pas utiliser les écoles et les universités à quelque fin que ce soit, à l'appui en fait à leur effort militaire.
Ah, il faut dire que cette déclaration n'est pas contraignante pour les États.
Pas du tout, la déclaration n'est pas contraignante pour les États. Il faut dire que c'est une déclaration qui complète en fait le droit international humanitaire et les autres droits qui existent.
Doudou Kajangou, Radio Kapi vous remercie.
Merci beaucoup.
Le gouvernement allemand soutient aux petits exploitants agricoles en RDC avec à la clé 35 millions d'euros pour soutenir un projet commun et innovant initié par le Programme alimentaire mondial PAM et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Objectif du projet, reconstruire les moyens d'existence dévastés par les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo en dynamisant les femmes, en soutenant les agriculteurs et en aidant à construire la paix entre les communautés. Et puis, cette nouvelle qui vient d'Uvira au sud de Kivu, 50 agents et cadres de la police nationale congolaise ont pris part la semaine dernière à la première série de 6 jours d'une session de recyclage sur la sécurisation du processus électoral. La deuxième série reprendra la semaine prochaine. Cette formation est organisée avec l'appui de l'unité de la police civile de la MONUSCO. L'objectif est de renforcer les capacités des policiers congolais sur les fondamentaux aux renseignements généraux, aux gestes techniques et professionnels d'intervention, au maintien et rétablissement de l'ordre public, au sécurisme, à l'éthique et à la déontologie policière, ainsi que sur les notions de droits de l'homme pendant le processus électoral.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, l'invité de Maguen de ce dimanche est Madame Ghislaine Assolo-Natobo, associée à l'information publique à la sous-délégation du SR, bureau de Gbadolité, au Nord-Ubangi. Outre le Nord-Ubangi, ce bureau gère les réfugiés du Sud-Ubangi et du Bazuélé. Alors depuis le lundi 16 avril, le SR et les CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, ont lancé l'enregistrement biométrique des réfugiés centrafricains du Bazuélé. Dans l'entretien que vous allez suivre tout à l'heure, notre invité parle entre autres de cette opération et répond à d'autres questions sur les réfugiés centrafricains. Ghislaine Assolo-Natobo s'entretient avec Honoré Missinga Kalala.
Ghislaine Assolo-Natobo, bonjour.
Bonjour Honoré, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, coucou à ceux qui me suivent à Guadeloupe.
Alors Ghislaine, l'opération d'enregistrement et d'enrôlement biométrique des réfugiés centrafricains du Bazuélé a-t-elle effectivement été lancée?
Tout à fait, Honoré. L'opération a bel et bien été lancée le 16 avril dernier à Ndou. Ndou, c'est une localité à forte concentration des réfugiés centrafricains située à environ 75 kilomètres de la chefferie de Monga, dans le territoire de Bondo. C'est une opération de grande envergure qui cible les réfugiés centrafricains vivant en dehors du camp Boti dans la province du Bazuélé. Conjointement avec la Commission nationale pour les réfugiés CNR, nos équipes d'enregistrement sont à pied d'œuvre et au moment où nous parlons, l'opération s'est poursuivie normalement. Le 18 avril, les 3 jours seulement après le lancement officiel de cette opération, 855 ménages de plus de 2400 personnes étaient enrôlés et les attestations leur sont octroyées à l'issue de cet enregistrement. Aujourd'hui, certainement, on est au-delà de ces chiffres.
Alors, Ghislaine, quels objectifs ou quels avantages y a-t-il pour le ASR et les concernés eux-mêmes à recourir à l'enrôlement biométrique des réfugiés?
Cette activité permet au ASR de maîtriser l'effectif réel de ces personnes sous son mandat et d'avoir surtout les statistiques fiables qui seront introduites dans sa base de données pour toute fin utile. Par exemple, lorsqu'il y a une assistance quelconque, l'UNHCR se servira de sa base de données pour la planification et la mise en œuvre de cette assistance. Pour les réfugiés, cet enregistrement a une importance très capitale. Elle leur permet d'être en possession du document d'identité, une attestation qui leur reconnaît le statut des réfugiés, et ces documents d'une grande valeur leur permet de circuler librement sur les territoires congolais et leur évite certaines tracasseries administratives.
Cette opération concerne-t-elle seulement tous les réfugiés centrafricains de cette province du Bazuélé?
De manière générale, l'opération concerne tous les réfugiés centrafricains qui sont dans le Bazuélé, mais elle cible principalement ceux qui sont nouvellement arrivés depuis mai 2017 à Monga, Ndou, Zéré, à Kanzaoui et dans les territoires de Bondo. Parce qu'au fait, il y en a qui sont arrivés ou qui ont traversé la frontière en 2013 et qui étaient préenregistrés par le HCR et la CNR. Pour cela, on est en train d'actualiser leurs données pour qu'ils aient également leurs attestations.
Oui, vous avez évoqué la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, dans cette opération. Quel est concrètement le rôle de cette institution gouvernementale?
La CNR, Commission nationale pour les réfugiés, est la responsable numéro 1 de l'enregistrement des réfugiés en RDC. Elle réalise des interviews, accorde le statut, délivre des attestations aux réfugiés. L'UNHCR ne vient qu'en appui au gouvernement congolais que la CNR représente. Il apporte un appui technique, logistique et financier pour le bon déroulement de cette opération.
Quels autres partenaires sont impliqués?
Il faut d'abord préciser que dans la mise en œuvre de ces activités, l'UNHCR ne travaille pas seul. Outre les agences sœurs et ses partenaires gouvernementaux, il travaille avec quelques organisations nationales et internationales. Pour cette opération en particulier, il a associé ses partenaires d'exécution comme SF, Terre sans frontières, qui s'occupe notamment de la construction d'abris et d'infrastructures, AIDES, Action et Intervention pour le développement et l'encadrement social, qui s'occupe des services communautaires, ADES, Agence pour le développement économique et social, volet santé, et AIRD, qui est dans la logistique, le déplacement du personnel, le transport de matériel, l'approvisionnement en carburant, etc.
Oui, Ghislaine Assolo-Natobo, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que rencontrez-vous des difficultés dans cette opération et de quelle nature?
Jusque-là, Honoré, l'opération se déroule sans problème. toutes les dispositions ont été prises par l'UNFR et la CNR pour que cet enregistrement se déroule dans de bonnes conditions. Le personnel, les équipements et matériels sont en place et tout se passe bien. Les difficultés en ce moment sont d'ordre logistique, particulièrement entre Yakoma et Monga, où les matériels et le personnel ont été transportés par moto. Les équipes se sont déplacées de leur base à Monga jusqu'au site d'enregistrement Andou, une affaire de 75 km. Dans cette zone, il faut dire que les routes sont presque inexistantes. Mais l'UNHCR, à travers son partenaire logistique AIRD, venait récemment de réaliser les tronçons Mongandou, entre autres dans le cadre des préparatifs de l'enregistrement qui est en cours. Cette route n'était accessible que par moto et bicyclette, mais aujourd'hui, les véhicules y passent sans problème.
Dernière question, à combien estimez-vous le nombre de réfugiés centrafricains dans le nord Ubangi et dans le Bazuele?
La sous-délégation de l'UNHCR à Guadeloupe gère dans l'ensemble 5 camps des réfugiés centrafricains, les camps Inki et Bili dans le nord Ubangi, Molé et Boyabou dans le sud Ubangi et les camps Boti dans la province du Bazuele. Dans ces camps et en dehors des soucis, nous avons au total 181 904 réfugiés. Parmi eux, 61 283 vivent dans les camps et 120 621 réfugiés sont en dehors de ces camps. À partir de mai 2017, nous avons accueilli de nouveaux arrivants par vague dans le nord Ubangi et dans le Bazuele. La province du nord Ubangi, où cet enregistrement a déjà eu lieu l'année passée, 39 150 nouveaux réfugiés ont été enrôlés. Deux territoires étaient concernés, les territoires de Yakoma et de Mobayimbongo, mais aussi certaines localités des environs de Guadeloupe telles que Mogoro, Kambo, Lembo, Niaki et j'en passe. Dans le Bazuele, plus ou moins 37 000 nouveaux arrivants, selon les statistiques de la DGM et des autorités locales, sont concernés dans un premier temps par cet enregistrement. Cependant, seule l'opération BIMS qui se déroule en ce moment nous donnera les statistiques fiables des réfugiés vivant hors camp dans la province du Bazuele.
Ghislaine Assolo, Nentobo, merci beaucoup.
Merci Honoré pour cette opportunité. J'en profite pour saluer la grande équipe du HCR et la famille Okapi. Coucou, on est ensemble.
Merci.
Et nous sommes toujours dans le Nord Ubangi avec la question des réfugiés centrafricains. Cette fois-ci pour dire que 3500 ménages de ces réfugiés et les familles d'accueil ont bénéficié d'un appui en kit agricole et de pêche de la Caritas. Les détails avec Honoré Missinga Kalala.
C'est une information de la Caritas Développement RDC. Le financement de cette assistance est venu du gouvernement allemand et de la Caritas allemande. 3500 ménages de réfugiés centrafricains et de familles d'accueil de la province du Nord Ubangi vont bénéficier des kits agricoles et de pêche. La distribution est assurée par Caritas Congo et Caritas Développement Molébé depuis le 12 avril 2018. Les groupements de Bao et Otombanza, situés à 42 km de Badolité, ont été les premiers à être servis. L'opération s'inscrit dans le cadre d'un projet d'appui multisectoriel en sécurité alimentaire dans les territoires de Mobayimbongo et de Yakoma. Au-delà de la lutte contre l'insécurité alimentaire, le projet tient en même temps à promouvoir une cohabitation pacifique entre les réfugiés et les autochtones qui les accueillent. Quant à la nature des kits, ceux-ci sont constitués notamment, pour la pêche, de 2 bobines de nylon, d'une boîte de hameçon de 4 filets, d'une machette longue, d'une lime et de 5 pièces de ralingue. Et pour l'agriculture, 11,5 kg de semences d'arachide, 12 kg de maïs, 12 kg de semences de niébé, 2 machettes longues, 2 houes, un râteau, une bêche et un arrosoir.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Kid, des experts internationaux qui devaient accompagner la CENI dans le processus électoral, comme l'avait décidé l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2017. La question a été posée à la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal. Suivez la question et bien évidemment la réponse.
C'est Nikez Mouzani, africeco.ch. À la 72e session des Nations Unies, il a été décidé qu'on mette à la disposition de la CENI quelques experts internationaux. Mais il y a quelques jours, M. Norbert Basengezi, vice-président de la CENI, vient de lancer deux appels d'offres internationales pour l'audit du fichier électoral et pour la certification de la machine à voter. Ma question c'est la suivante. Où sont passés les experts internationaux qui devaient accompagner la CENI si aujourd'hui la CENI fait encore appel d'offres internationales?
Vous faites allusion à une décision qui avait été prise lors d'une réunion consacrée à la République démocratique du Congo en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier sur la mise à disposition de la CENI d'un groupe d'experts. Il y a eu ensuite plusieurs réunions au niveau du Conseil de sécurité, ensuite au niveau régional, à l'Union africaine. Il avait été décidé que l'Union africaine allait prendre la position leader pour ce groupe. Les termes de référence sont toujours en discussion et d'ailleurs, une fois encore, si vous regardez la résolution 2409, il est fait également allusion dans cette résolution à ce groupe d'experts. Le Conseil de sécurité engage le gouvernement congolais et la CENI à mettre en place ce groupe d'experts.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, moi c'est Trésor Batachiana Kishala. Voilà, je suis administrateur national à la protection pour le bureau du ACR Badolité. Je suis marié à une très jolie femme, le père d'une fillette. Je suis juriste de formation à l'Université de Kinshasa. Je suis au ACR depuis février 2015. J'avais commencé dans la province du Bas-Congo à l'époque, dans le bureau terrain de Kimvula. Et depuis lors, je chemine Bas-Congo, Katanga, Pueto Moba, Beni, Bounia. Et ensuite, je suis présentement à Badot, chargé de la protection. Ouf, la journée du travail. La première des choses, c'est lire les mails. S'il y a des mails très urgents auxquels il faut répondre, je commence toujours par là. Et ensuite, je reviens au planning de la journée, que j'ai laissé, pour voir s'il y a des dossiers à traiter. Et ensuite, il y a tous les entretiens avec les réfugiés, l'orientation des collègues, l'orientation des partenaires. Voilà, donc c'est souvent comme ça. Donc c'est toujours une journée pleine. Oui, avant l'ACR, juste après mes études universitaires, j'étais employé chez Oxfam Québec, une ONG internationale. Et ensuite, depuis une année à l'Oxfam Québec, et depuis lors, je suis au ACR. Mon temps libre, je reste avec ma famille. Et souvent, c'est soit en écoutant un peu de musique, et bien les week-ends, souvent, les samedis, dimanches, c'est plus le sport que je fais le matin. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Et le soir, quand on a un peu de temps libre, je fais un peu de lecture. Voilà, pour un peu réfléchir. Et surtout, ne pas oublier les notions de droit que nous avions apprises à l'université. Oui, j'aime la musique chrétienne. La musique chrétienne, Laure Mbongo et la pauvre sœur Marie Missamo. J'aime beaucoup leur musique. Sport, je fais la marche, comme je l'ai dit, le week-end souvent, mais le foot aussi, je joue aussi au foot de temps en temps. Oui, en RDC, je suis supporter d'abord de l'équipe nationale, non Léopard, mais aussi les tout-puissants Mazembe. Mais aussi le plan international, c'est le Real Madrid. Cristiano Ronaldo, oui, j'aime bien la nourriture, j'aime la bonne cuisine. Congolaise, oui, j'aime les pondous, les poissons et les foufous. C'est tous les poissons tilapia et comme il y en a beaucoup à Badolité, non, je me sens très bien. Oui, après les ACR, c'est vrai que tout débit a une fin, mais après les ACR, je pense travailler pour la nation congolaise, d'une manière ou d'une autre, pour la population congolaise, particulièrement les vulnérables. Voilà. Ok, merci beaucoup, je salue mon papa, monsieur Léon Kishala Kiana, qui est un auditeur fidèle de Radio Okapi. Et je salue également ma femme et ma fille. Et je salue tous les collègues du ACR, tous les collègues partenaires. Et nous sommes là pour le travail du ACR. Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Retenez ces quelques rendez-vous dans vos calepins. Le lundi 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et puis le mercredi 25 avril, c'est la journée mondiale du paludisme. Enfin, le samedi 28 avril, c'est la journée internationale des accidents de travail. C'est la fin de ce magazine des Nations Unies, coordonné et réalisé par Jean-Pierre Elali Coco, mise en onde par Alain Goy. Ce reportage, Honoré Missenga, sous la supervision de Martin Sibujangwe. Moi, c'est Tina Salama, c'était un plaisir de vous le présenter. On se dit à très bientôt sur Radio Capi.